tous les ans quasiment dans les mêmes parages. Et tous les ans je trouve du changement de dessus mon passage. À tous les coups c'est pas le même chien qui gueule à mes chausses. Et puis voyons si je me souviens, voyons dans ce coin de Beauce. Y avait dans le temps un beau grand chemin, cheminot, cheminot, chemine. Aster n'est pas plus grand que ma main. Par où donc je cheminerai demain? En Beauce, vous les connaissez pas. Pour que rien ne se perde, mangerai on sait quoi ces gars-là. Ils mangeraient de la merde. Le chemin c'était à leur juger la bonne terre perdue. À chaque labour ils l'ont mangé d'un sillon de charrue. Y avait dans le temps un beau grand chemin, cheminot, cheminot, chemine. Aster n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerai demain? Sont gros aussi leurs arpents goulus d'un peu de lèpre toute neuve. Mais pour le chemin en est devenu mince comme une couleur. Et moi qu'avec lui sous les cieux pour poser guibole, chemin à tout le monde, nom de Dieu, c'est mon bien qu'on me vole. Y avait dans le temps un beau grand chemin, cheminot, cheminot, chemine. Aster n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerai demain? On se met du blé sur le terrain qui retira ma route. Mais si je leur demande un bout de pain, ils m'envoient me faire foutre. Et c'est peut-être bien pour ça que je vois, à mesure que le blé monte, les épis baissent le nez devant moi comme s'ils avaient honte. Y avait dans le temps un beau grand chemin, cheminot, cheminot, chemine. Aster n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerai demain? Pour mon beau petit chemin gris et blanc, sur le dos qui je passe, je veux plus qu'on me serre comme ça les flancs. Car moi je veux de l'espace, où ce que mes allumettes elles sont, dans le fond de ma panetière. Et je ferai bien reculer vos moissons, oh les mange-terre. Y avait dans le temps un beau grand chemin, cheminot, cheminot, chemine. Aster n'est pas plus grand que ma main, pourrait bien l'élargir demain.
Radio Libertaire, 89,4 MHz, c'est l'heure de l'émission Les Mangeterres, une émission d'écologie sociale, dans un mois éminemment social, de mouvement social. Et nous allons donc faire une petite introduction, une fois n'est pas coutume, sur la grande bataille en cours et qui commence, dont une étape importante doit être franchie demain par une mobilisation générale contre la réforme des retraites. Alors après quelques considérations, puisque c'est vrai qu'on entend beaucoup d'arguments et beaucoup d'éléments, donc je ne veux pas forcément être très très original, je vais juste rappeler deux trois éléments un petit peu qu'on peut peut-être juger anecdotiques, mais et puis ensuite m'appuyer sur un éditorial, vous le verrez. Et terminé pour cette première partie et entame d'émission par une réflexion justement sur le temps de travail et la diminution du temps de travail. Alors, peut-être pour dire globalement les choses, hein, bien rappeler que cette réforme des retraites, finalement, bien ne tombe pas de nulle part, puisque dans un document d'orientation budgétaire que la France a transmis à Bruxelles, donc c'était à l'été 2022, dans le cadre du pacte de stabilité, eh bien, il était indiqué qu'il fallait financer la politique de baisse des prélèvements engagés par le pouvoir. Donc, par exemple, on peut citer la suppression de la taxe d'habitation, la baisse des impôts sur la production, hein, dont on a vu d'ailleurs que le montant sur la taxe sur la valeur ajoutée des entreprises, contribution à la valeur ajoutée, allait être supprimée, si je ne me trompe pas, annoncer la taxe d'habitation. Enfin, je me mélange un peu. Non, je crois que c'est la contribution effectivement sur la valeur ajoutée. Et bien voilà, donc ces réformes de toute façon s'inscrivent dans un ensemble beaucoup plus large de cadeaux fiscaux, c'est-à-dire à chaque fois on présente bien sûr un allègement de ce qu'ils appellent les charges sociales, qui sont en fait les cotisations sociales, sans contrepartie pour l'emploi, en tout cas sans l'observer, comme on l'a vu, on se rappelle, hein, cet abaissement de TVA des restaurateurs, sans effet notable sur la création d'emplois. Donc on le voit, ces réformes, elles sont menées par une vision idéologique, et bien sûr quand il s'agit de repasser sous la barre des 3% de déficit du PIB d'ici 2027, on s'empare, en tout cas l'État français s'empare de ce qui est le plus pénalisant pour tous, notamment sur le fait que la part des retraités augmentant dans la population, il faudrait, selon le pouvoir en place, contenir un même pourcentage du PIB, la part consacrée aux retraités, alors que le nombre de retraités augmente. Donc la conséquence, bien sûr, c'est celle d'une diminution du niveau de vie des retraités, ça c'est clair. Et le gouvernement propose d'accélérer cette réforme. Finalement, on peut dire que le rôle du gouvernement, c'est de donner aux plus riches, quoi qu'il en coûte, quand ça va mal. Et dès que ça va un peu mieux, alors on ne peut pas dire que ça aille vraiment mieux, puisque l'inflation réelle est à plus de 10%, mais dès que ça va un peu mieux, presque, en tout cas, on n'hésite pas à reprendre aux pauvres. Et c'est effectivement les plus précaires des travailleurs et des travailleuses qui seront pénalisés par cette réforme des retraites si celle-ci va au bout. Et c'est bien ça la magie du capitalisme, on privatise les profits et on mutualise les pertes, c'est une grande leçon, avec quelques aberrations où le gouvernement s'est modélisé à 1 euro près le déficit en 2027 et en 2030, alors que le Conseil d'orientation des retraites, lui, utilise 8 paramètres pour donner des tendances d'évolution des dépenses de retraite, et ne savait même pas dire, le Conseil d'orientation des retraites, de combien serait le déficit, ou en tout cas le bénéfice, je crois. On tend vers un léger déficit, je crois, pour 2023, mais en tout cas, le corps disait à 1 ou 2 milliards près qu'il ne savait pas exactement l'estimer. En face, on a un gouvernement qui, lui, s'est justifié à l'euro près ses prévisions pour appuyer ses funestes projets. Et puis aussi, il faut rappeler que le rapport du Conseil d'orientation des retraites, donc du COR, de 2017, prévoyait en 2022 un déficit de 8 à 13 milliards, selon les différentes hypothèses, et qu'en réalité, le régime est bénéficiaire de plus de 3 milliards d'euros en 2022. Donc on le voit, tous les prétextes sont bons pour appuyer les politiques. Le vrai but, c'est de faire diminuer la part servie aux retraités, ça c'est clair, hein, de 20%, même ça a été estimé, par les mesures des réformes antérieures qui sont accélérées par la réforme en cours. Et puis alors surtout, on a bien sûr des représentants qui siègent à l'Assemblée et là, cette fois-ci, au Sénat, qui s'emparent du sujet, qui sont extrêmement frappants pour deux choses. Les statistiques sont publiées en ligne. Si on regarde les catégories socio-professionnelles de ces représentants, eh bien on voit qu'ils sont très largement, bien sûr, issus issus des catégories socio-professionnelles très favorisées. Donc, bien sûr, ceux pour qui une pension de retraite ne constitue pas le seul apport pour finir ses vieux jours, hein, des représentants qui ont pu, parce qu'ils étaient des professions libérales ou de hauts fonctionnaires ou des cadres supérieurs, eh bien évidemment accumuler du capital et se baser sur la rentabilité de ce capital pour se faire un pactole pour la retraite. Et donc ce sont cette majorité écrasante, en tout cas dans la représentation nationale, qui va prendre des décisions, alors que, bien sûr, cette proportion de cadres supérieurs n'est absolument pas majoritaire dans la part des actifs, puisqu'on sait que employés et ouvriers représentent près de la moitié des actifs, hein, voilà, et certainement pas dans les instances. Donc, alors on nous explique qu'on a on a des échanges très polissés, bah c'est sûr, hein, on est assez confortable dans sa vision de l'avenir. Et puis, bien sûr, ce que tout le monde a vu aussi, hein, c'est le régime spécial des sénateurs, où, eh bien, après un mandat de 6 ans, le montant de la pension de retraite pour un sénateur est de 2190 € net. Et comme la présence d'un élu sur les bancs est souvent plus longue, eh bien la pension moyenne versée par le Sénat, en moyenne hein, pour un sénateur, représente 3856 € net la même année. Donc c'est, voilà, ce sont ces personnes qui vont eh bien, décider de faire serrer la ceinture aux autres. On voit bien que la bourgeoisie, en tout cas, a tous ses représentants bien sur les starting blocks, et que cette attaque est tout à fait sans précédent. Je ne vais pas trop m'étendre sur d'autres sujets. On pourrait parler aussi des entreprises qui se débarrassent des salariés âgés qui approchent la soixantaine. Tout cela est très documenté, hein, bien sûr, avec des plans de départ volontaires, et puis aussi des ruptures conventionnelles collectives, hein, bien sûr. Tout ça, eh bien, c'est un secret de Polichinelle, hein, et ça reporte finalement la dépense sociale sur le budget de l'assurance chômage. Et bah, ce qu'on économise sur une caisse, on le perd de l'autre. Et on voit surtout cette conjonction d'intérêts entre les entreprises qui veulent se débarrasser des salariés âgés, qui souvent ont des salaires, niveaux de salaire élevés, et bien sûr les salariés qui eux-mêmes ont du mal à supporter ce qu'est devenu le travail, en tout cas ce que sont les conditions de travail, et tout simplement qui constatent par eux-mêmes qu'arrivés à un âge proche des 60 ans, eh bien, nous n'avons pas du tout les mêmes aptitudes et la même volonté de continuer à travailler, et qu'il en va même d'une question de survie, puisque si on veut passer un peu de retraite en bonne santé, il faut savoir économiser la machine, voilà, la machine humaine. Et donc, il me semblait nécessaire, en tout cas, de m'exprimer sur ce sujet, bien qu'il soit beaucoup, beaucoup débattu. Alors, pour venir sur du plus sérieux, je voulais m'appuyer aussi sur la presse qui s'achète pour ne pas être vendue, c'est-à-dire une presse qui ne vit pas de la publicité, comme Radio Libertaire aussi, hein. Et alors, dans cette presse, il y a par exemple, on en fait souvent écho, le mensuel La Décroissance, toujours très très intéressant, avec l'article du Petit Économiste intitulé donc Denis Baba, retour à 1945, et qui nous alerte sur un sujet vraiment important et qui convient de bien avoir en tête quand on parle des retraites. Alors, petit retour vers le passé, donnant raison à nos adversaires, présentant les décroissants comme des passéistes rétrogrades pour lesquels hier était mieux qu'aujourd'hui, le Petit Économiste, donc, qui rédige cet article, en ces temps de mobilisation toujours importante pour les retraites, revient à 1945 et mesure l'ampleur des régressions sur le front social. Donc Denis Baba a récemment rencontré Pierre Caillot Croizat, le petit-fils d'Ambroise Croizat. Ce dernier, donc Ambroise Croizat, entré en usine à 13 ans, infatigable syndicaliste, permanent fauché en permanence, est devenu ministre communiste du travail et a mis en place le régime général de la sécurité sociale en 1945. Pour cela, il a profondément transformé les assurances sociales de l'avant-guerre qui ne protégeaient en rien les ouvriers. Pierre Caillot rappelle en effet que les conditions de vie populaires étaient alors proches de celles décrites par Zola. L'exploitation était féroce et le salaire du chef de famille couvrait tout juste les besoins de base. Lorsque le chômage ou la maladie frappait, c'était la misère assurée. Mais la sécu à la Croizat ne fut pas affaire que de répartition. Pour répartir, il faut produire. Et Croizat donnait via la sécu le pouvoir de décider de la production aux travailleurs. Il était donc essentiel que les caisses de sécu soient abondées par une part du salaire, la cotisation sociale, pour qu'il soit légitime que les travailleurs, via leurs organisations, les gèrent. Ainsi, après la tenue d'élections aux caisses de sécu en 1945, les organisations syndicales se partageaient alors les trois quarts des sièges d'administrateurs. Je ne sais pas si l'article va l'évoquer, mais en tout cas, en 1967, les lois Jeanneney sont revenues là-dessus et ont profité de la division syndicale en amenant la part de représentation patronale à 50%, alors qu'elle était que de 25% donc, à l'époque. Et je reprends donc l'article. Pour bâtir cet édifice, pas question d'expérimentation locale, mais la loi uniquement, donc, en savoir les ordonnances du 4 et du 19 octobre 1945. Celle-ci n'aurait jamais suffi à elle seule. C'est pourquoi ancien dirigeant de la CGT, qui comptait à l'époque 5 millions de militants, Ambroise Croizat disait aux travailleurs « J'ai besoin de vos bras, rien ne se fera sans vous ». Son petit-fils rappelle « Dans un pays ruiné, ce sont eux qui vont parfois construire, gratuitement après leurs 50 heures de boulot, les bâtiments des futures caisses de sécu. Eux qui vont se former, toujours après le boulot, apprendre à devenir administrateur. C'est cet engagement collectif qui explique que la Sécu a commencé à fonctionner en un peu plus d'un an seulement, alors qu'il en fallut 8 pour la Sécu étatique anglaise, celle de Lord Beveridge. Les syndicalistes d'alors se sont bientôt trouvés à la tête d'un budget total plus important que le budget de l'État, et ont pu décider de la production de biens et services fondamentaux, notamment médicaux, une urgence étant donné l'état sanitaire du pays. Très vite, la situation du monde ouvrier va s'améliorer avec une hausse de l'espérance de vie, un recul de la mortalité infantile, souligne Pierre Caillot. Non pas grâce à la seule croissance économique, alors compréhensible dans un pays ruiné par la guerre, mais grâce à une démocratie sociale pratiquée à une très large échelle qui garantit la production de biens communs. Malgré l'hostilité sur le terrain des patrons et des hauts fonctionnaires, bien décidés à faire capoter la sécu aux mains des travailleurs, manquerait plus que le peuple devienne maître de son destin économique. Après des décennies d'étatisation et de gauche et de droite de la sécu, ce rappel historique est une grande cruauté pour la société française d'aujourd'hui. Ravagée, toujours selon Pierre Caillot, resté militant CGT, par l'individualisme, le consumérisme, l'effacement du bien commun, presque plus personne n'y revendique une gestion populaire de la sécu. Voyez les défaillants héritiers de Croizat, dirigeant la néo-CGT pour lesquels, citation, « La redistribution est l'élément central de notre système par répartition dont l'enjeu majeur reste la création d'emplois et la croissance. Sans oublier la baisse du temps de travail dont l'une des modalités serait un départ plutôt à la retraite qui permettrait de faire face à l'urgence climatique. » Donc là, c'est pris dans la communication de la CGT du 6 février, la retraite à 60 ans, c'est possible. Du grand n'importe quoi, dit Denis Baba. Le temps de travail dans l'emploi ne cesse de baisser dans ce pays depuis des décennies, tandis que s'accroît l'urgence climatique. Ce qui n'est pas une surprise, puisque la baisse du temps passé dans l'emploi est permise par la forte productivité des machines industrielles à l'origine du désastre écologique. Pour retrouver une sécu populaire, nul doute qu'il ne nous faudrait pas compter nos heures. Pas d'argent public pour la sécu, du salaire devrait être notre mot d'ordre, ose rappeler Pierre Caillot. Car si c'est l'État qui la finance et non les salaires, alors il a toute légitimité pour la gérer. Ce qu'il fait, comme nous le savons, menant des réformes contre lesquelles les foules impuissantes processionnent régulièrement, sans avancer la moindre idée pour reprendre l'offensive sociale. Donnons-nous les moyens de reprendre en main collectivement l'administration des caisses de sécu. Une véritable démocratie économique, c'est également, ajoute le petit économiste décroissant, qui est Denis Baba, donc qui rédige cet article. Une véritable démocratie économique, c'est également la condition pour une décroissance économique plus urgente que jamais dans nos sociétés obèses, au sens propre comme au figuré, ce que n'était certes pas la France de 1945. Ah, si la décroissance pouvait compter sur des organisations pérennes et structurées engageant des millions de Français travaillant à se rendre maîtres au milieu de conflits formidables avec les organisations croissancistes de leur destin économique. Lançant des désinvestissements massifs au hasard dans le numérique pour stopper la destruction spirituelle en cours et relocalisant des productions fondamentales pour le bien commun, comme celle par exemple de médicaments de base. Si les contextes sont radicalement différents, si de nouvelles institutions de démocratie sociale sont à inventer, la question reste. La société française de 2023 peut-elle encore se hisser à la hauteur de nos anciens de 1945 ? La réponse pour l'heure est hélas évidente, c'est non. Définitivement, la question reste posée et effectivement, ça me semble vraiment fondamental d'évoquer en tout cas cette question à l'heure dans laquelle on se trouve d'une mobilisation, à savoir la sécurité sociale, c'est, si on revient à l'origine, après 45, avec une majorité de représentants de travailleurs et travailleuses qui gèrent la caisse, eh bien, une marche vers l'autogestion des richesses, hein, c'est ça le sens, en tout cas, il me semble, en tout cas la conclusion que je tire de la lecture de cet article est l'allocation des ressources et donc les choix industriels non plus dictés par le capital et la rentabilité du capital, mais bien par d'autres considérations et plus en phase avec les attentes sociales, écologiques. En tout cas, voilà, il s'agit dans notre société, il y a suffisamment de richesses, beaucoup trop de richesses toxiques, mais en tout cas, on sait que, eh bien, une retraite viable est tout à fait finançable, hein, si on prélève évidemment les sommes qui sont volées par le patronat et par les actionnaires. Voilà, c'est une évidence, mais tout cela ne doit pas nous affranchir de la question de la finalité du travail, de l'orientation de la production, et si on veut le faire, il faut poser ce genre de questions, à savoir qui contrôle la production et qui en décide de répartir les fruits. C'est ça le projet de la sécurité sociale, de la mutualisation et de la gestion directe par les représentants et les travailleurs et travailleuses elles-mêmes. Voilà. On va se faire une pause musicale après cette entame syndicaliste et nous allons attaquer un tour d'horizon de l'actualité écologiste de ce mois. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz.
Dans la vieille cité française existe une race de fers dont l'âme comme une fournaise a de son feu bronzé la chair. Tous ses fils naissent sur la paille, pour palais ils n'ont qu'un taudis, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. Ce n'est pas le pilier du bagne, c'est l'honnête homme dont la main par la plume ou le marteau gagne en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille les jours et quelquefois les nuits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le bohème qui sans soupir rime rêveur. Un sonnéa, c'est le qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qu'il fait ripaille, qu'il loge et qu'il a des habits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'homme à la face terreuse, au corps maigre, à l'œil hideux, au bras de fer, à main nerveuse, qui sortons d'on ne sait pas où, toujours avec esprit vous raille, se riant de votre mépris, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'enfant que la destinée force à rejeter ses haillons quand sonne sa vingtième année pour entrer dans nos bataillons. Cher à canon de la bataille, toujours il succombe sans cri, c'est la canaille.
Eh bien, j'en suis. Ils fredonnaient la Marseillaise, nos pères les vieux vagabonds, attaquant en 93 les bastilles dont les canons défendaient la vieille muraille que de trembleurs ont dit depuis, c'est la canaille. Eh bien, j'en suis. Les uns travaillent par la plume, le front dégarni de cheveux, les autres martèlent l'enclume et se saoulent pour être heureux, car la misère en sa tenaille fait saigner leurs flancs amaigris, c'est la canaille. Eh bien, j'en suis. Enfin, c'est une armée immense, vêtue en haillons, en sabots, mais qu'aujourd'hui la vieille France les appelle sous ses drapeaux. On les verra dans la mitraille, ils feront dire aux ennemis, c'est la canaille. Eh bien, j'en suis.
La Canaille, un chant de référence à la Commune de Paris, interprété par Marc Augeret. Vous êtes sur Radio Libertaire 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeterres qui reprend son cours avec une ouverture d'une page climat, transport, énergie avec un article pris sur WE demain, donc un article du 3 mars. Qui parle tout simplement des émissions de CO2 et nous dit que on est sur une trajectoire insoutenable avec une année 2022 record, puisque le bilan est tombé et il n'y a pas de quoi se réjouir. Loin de là, selon l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, qui a publié un rapport le 2 mars dernier, les émissions de carbone ont atteint un niveau jamais égalé en 2022, alors même que les scientifiques, experts du GIEC en tête, ne cessent de répéter qu'il est urgent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de CO2 en tête, ce dernier a augmenté de 0,9% l'année dernière. Acteur de premier plan du réchauffement climatique, le CO2 était donc en hausse en 2022. Des émissions qui restent sur une trajectoire insoutenable, selon les propos mêmes du rapport. L'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, met notamment en cause les phénomènes météorologiques extrêmes, notamment des sécheresses et des vagues de chaleur l'an dernier, mais aussi un nombre inhabituellement élevé de centrales nucléaires hors service. Les émissions mondiales de CO2 liées à l'énergie ont augmenté en 2022 de 0,9%, soit 321 millions de tonnes de plus, avec un nouveau sommet de plus de 36,8 milliards de tonnes, selon le rapport de l'AIE. Le risque d'une croissance débridée des émissions en raison du recours accru au charbon dans le contexte de crise énergétique ne s'est pas matérialisé. L'essor des énergies solaires et éoliennes, des voitures électriques, de l'efficacité énergétique et d'autres facteurs ayant freiné la montée du CO2, dit le rapport. Mais 550 millions de tonnes d'émissions supplémentaires ont été évitées grâce au déploiement accru de technologies énergétiques propres, précise l'agence. L'essor des énergies solaires et éoliennes, des voitures électriques, de l'efficacité énergétique et d'autres facteurs, donc on l'a vu, qui ont freiné la montée du CO2. Alors, si l'augmentation des émissions de CO2 en raison du recours au charbon pouvait être à craindre en raison de la guerre en Ukraine et des restrictions imposées par la Russie, l'effet s'est révélé limité, puisque du côté du charbon, en tout cas, les émissions de CO2 ont augmenté de 1,6% en 2022. En parallèle, les émissions liées au pétrole ont augmenté davantage, donc de plus 2,5%. Et l'agence note, ce qui est intéressant, que la moitié de cette augmentation provient de l'aviation. En effet, les voyages aériens continuent de rebondir après les creux pandémiques, donc de Covid. Alors, le rapport s'exprime aussi sur l'origine de la hausse des émissions en 2022. Et nous dit que les émissions provenant de Chine sont restées globalement stables et en lien avec les mesures strictes liées au Covid-19 qui ont été levées fin 2022 et la baisse de l'activité de construction qui est un secteur en pleine crise qui ont permis de limiter la casse. En revanche, les émissions des économies émergentes et des pays en voie de développement d'Asie ont augmenté de 4,2%. Qui dit croissance rapide dit aussi nette hausse de la demande énergétique. Donc là, on le voit, enfin, c'est moins un commentaire de ma part, Et on le sait, c'est évidemment par l'export, en tout cas le fait de confier le développement à d'autres pays qui eh bien, augmente les émissions de CO2 de ces pays, mais comme un certain nombre, en tout cas une bonne proportion des produits sont consommés par les pays les plus riches, les pays occidentaux, il est évident que si on raisonne en empreinte écologique, c'est bien à nos pays que doivent être imputées ces émissions de CO2 et qui ne sont évidemment cachées dans des accords de type protocole de Kyoto et consorts, puisque on considère que les émissions sur le territoire, donc bien plus on délocalise, plus on est vertueux, puisqu'on n'est pas sur son territoire. Je ferme la parenthèse et je reviens sur l'origine des émissions pour dire que l'Union européenne fait plutôt figure de bon élève, en tout cas selon le rapport, toutes choses égales par ailleurs. En effet, les émissions de CO2 ont diminué de 2,5% en 2022. Voilà, je pense que vous avez eu l'explication par mon commentaire. Alors là, l'article dit qu'il y a eu un véritable effort des pays de l'Union européenne pour mettre en place une production accrue d'énergie renouvelable, certes. Et à quoi s'ajoute un début d'hiver très doux et des mesures d'économie d'énergie en réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Je pense qu'effectivement, ce sont des facteurs assez déterminants, ces deux derniers. Et côté États-Unis, les émissions ont augmenté de 0,8%. L'utilisation accrue de la climatisation dans les bâtiments pour faire face aux températures extrêmes a pesé sur la facture énergétique globale. Donc on voit dans dans ces articles, voilà, de mon point de vue, en tout cas, qui ne creuse pas assez en fait hein, la question de la consommation, c'est-à-dire on peut se parer de vertu en développant des renouvelables, si par ailleurs on peut se parer de vertu aussi en interdisant les mines et l'extraction minière, et tout en continuant une consommation effrénée des téléphones portables et de tous les gadgets technologiques qui pèsent très lourdement. Avec cette logique, on imputera les coûts de l'extraction des matériaux aux pays qui les produisent, alors que, bien sûr, la logique veut que ce soit les consommateurs qui en portent la responsabilité. Et seulement comme ça, on pourrait avoir en tout cas une maîtrise de l'usage en pointant du doigt les vraies responsabilités. Pour poursuivre donc sur la page transport, j'ai toujours un petit coup de sang avec les trottinettes électriques, moi-même étant cycliste. Cycliste sans assistance électrique, je le précise. Donc là, on a un article de Reporter du 1er mars qui nous dévoile la combine d'un opérateur pour garder son marché, puisque plusieurs utilisateurs de trottinettes électriques Lime ont reçu un étrange message le 28 février. L'opérateur leur offrait 10 minutes d'utilisation gratuite s'ils s'inscrivaient sur les listes électorales pour le référendum citoyen parisien du 2 avril. Les Parisiennes et Parisiens sont en effet appelés à se prononcer sur l'avenir de ces trottinettes en libre-service dans la capitale. Cette pratique n'est pas illégale. On n'est pas dans un cadre électoral strict puisque c'est une votation citoyenne, donc il y a une liberté dans l'organisation et dans la manière de faire la campagne, explique David Béliard, l'adjoint à la ville de Paris en charge des transports, joint par Numérama. Mais certains ont dénoncé un acte moralement critiquable. Cette votation citoyenne est un enjeu de taille pour Lime, L-I-M-E, un des trois acteurs autorisés dans la capitale. L'entreprise états-unienne vient seulement d'annoncer sa première année de rentabilité. Paris est son premier marché avec 5000 trottinettes électriques et près de 1 million d'utilisateurs uniques. Numérama a également consulté certains courriels envoyés par Lime à ses utilisatrices et utilisateurs pour justifier son offre. Citation, rassure-toi, ce n'est pas une révolution, juste un simple rappel de ce qui t'attend si tu ne donnes pas de ta voix. Pas de voix, pas de vote. Pas de vote, pas de trottinette. Pas de trottinette, plus de trottinette. Et il ne faudrait pas venir pleurnicher quand au 47e jour de grève des transports, tu n'auras plus que tes pieds pour battre le pavé. Donc voilà, ça c'est un exemple rapporté par Reporter de courriel envoyé par Lime à ses utilisateurs, donc parisiens de trottinettes. On voit un discours, eh bien voilà, c'est le capital hein, qui en fait, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ces trottinettes électriques et sur l'utilisation d'une assistance électrique pour se déplacer en ville? Eh bien tout simplement qu'il y a là encore une fois une gabegie phénoménale de matériaux et de ressources, bien sûr. Hein, on nous fait croire que la mobilité est un droit, c'est quelque chose de cool qu'on peut rouler sur un engin comme ça avec un casque sur les oreilles et faire fi de tout ce qui se passe autour. Et c'est d'autant plus rageant de voir des utilisateurs dans la force de l'âge avec une capacité évidemment bien à fournir un effort physique, a fortiori lorsque notre société souffre de problèmes de santé liés à l'inactivité, et de présenter comme un droit à la mobilité absolue le fait d'avoir cette assistance électrique, un droit d'ailleurs que beaucoup d'institutions ont favorisé, notamment par le vélo électrique, puisque quand il s'est agi de développer des politiques cyclables, nos grands bourgeois utilisateurs souvent qui se déplacent avec des chauffeurs hein, ou alors habitués à un confort et au marqueur social que constitue la voiture. On pensait que c'était trop fatigant de faire du vélo et qu'il fallait absolument avoir une assistance électrique, alors que voilà, la plupart de nos paysages sont quand même relativement plats. Je ne parle pas de Ménilmontant, bien sûr, hein, mais voilà, c'est quand même toujours la question de le jeu en vaut-il la chandelle, et c'est la question qu'on doit se poser sur tous les outils et les gadgets que la société nous met dans les pattes et qui nous rend totalement écervelés. Donc voilà, après ce référendum parisien, on peut juger qu'il est complètement on va dire annexe, accessoire, je me prononcerai pas dessus, il y a effectivement beaucoup d'autres sujets plus sérieux que celui-là, mais toujours est-il que cette consommation effrénée de batterie et d'assistance électrique, c'est vraiment totalement un contresens historique, d'où le présent coup de gueule en commentaire de cet article. Et puis, pour poursuivre, poursuivons avec le réseau Action Climat France, qui revient dans un communiqué du 21 février sur les propositions du Comité d'orientation des infrastructures, le COI, qui se pose la question, donc, est-ce que ces propositions du COI ouvrent la voie à une véritable planification écologique dans le domaine des transports ? Donc le réseau Action Climat a analysé les différentes propositions de ce comité d'orientation des infrastructures, donc des routes quoi, hein, et donc rappelle ses demandes d'abord. Les demandes du réseau Action Climat sont d'instaurer un moratoire sur les nouveaux projets routiers, ce qui permettrait d'économiser 12 milliards, d'interdire toute extension ou construction de nouveaux aéroports, de faire du train un moyen de transport de masse, pour cela il faudrait 15 milliards d'euros, créer 50 000 km de pistes cyclables partout en France, pour ça il faudrait 3 milliards d'euros, et doubler le nombre de déplacements en transport en commun, et pour cela il faudrait 2,5 milliards d'euros. Voilà, donc propose de financer en tout cas ce développement. Et alors, donc, analyse le rapport du comité d'orientation des infrastructures qui a réfléchi sur trois scénarios. Donc dans ces trois scénarios, il y en a deux qui sont jugés hors-jeu par le réseau Action Climat pour répondre aux enjeux de la planification écologique. Donc si on poursuit, parce que ces scénarios ont été détaillés, donc il y a un premier scénario dit de cadrage budgétaire, qui, de l'aveu même du COI, ne permet pas de répondre aux ambitions affichées par le gouvernement. Donc c'est un scénario placé sous le signe d'une très forte contrainte budgétaire, quitte à ne pas tenir compte dans son chiffrage de la forte inflation des derniers mois. Résultat, avec une enveloppe de 17,5 milliards d'euros sur la période 2023-2027, ce scénario propose d'appuyer sur le frein alors même que la transition écologique oblige à accélérer les investissements dans l'entretien et la modernisation du réseau ferroviaire, les infrastructures cyclables ou encore les transports en commun. Un scénario 2 de planification écologique qui propose d'investir près de 26 milliards d'euros sur la période 2023-2027, soit une augmentation de 50% des crédits par rapport à la période actuelle. Cette enveloppe atteindrait près de 30 milliards d'euros sur la période suivante. Et le réseau Action Climat nous dit que ce scénario acte une vraie prise de conscience des besoins d'investissement pour l'entretien du réseau ferroviaire, mais que néanmoins d'autres points méritent d'être questionnés, en particulier la faible importance accordée aux infrastructures cyclables ainsi qu'aux transports en commun. Donc ce scénario fera l'objet d'une analyse spécifique un peu après, et puis comme il y avait trois scénarios, le troisième examiné est un scénario de priorité aux infrastructures qui intègre davantage de nouveaux projets routiers et ferroviaires, avec une enveloppe budgétaire plus importante même que le scénario 2, avec une conséquence environnementale, puisqu'il prévoit notamment de financer la réalisation de l'ensemble des nouveaux projets routiers pourtant néfastes pour le climat et la biodiversité, de nombreux contournements et doublements de réseaux autoroutiers, etc. Alors dans ces trois scénarios, on a vu qu'il n'y en a qu'un qui est à peu près, qui est le moins néfaste, on peut le dire comme ça, et celui-là est analysé. Donc, ce qui est positif, mais qui peut être amélioré selon Réseau Action Climat France, c'est certes, il y a un renfort significatif des investissements dans le transport ferroviaire, avec près de 1,5 milliard d'euros supplémentaires, qui bénéficierait à l'entretien du réseau existant, y compris les petites lignes, commentaire de ma part, c'est quand même pas un mal, hein, au développement du fret ferroviaire, des trains de nuit et des RER métropolitains. Quand on utilise beaucoup le train, eh bien, on s'aperçoit, enfin, on constate, hein, tout à fait, que bien, le paquet a été mis sur le réseau à grande vitesse et que les choix se sont faits, bien sûr, au détriment de la desserte locale. Je crois qu'on a tous des exemples, on souffre et on constate cette détérioration générale sous les coups de boutoir des logiques financières et du capital. En tout cas, pour le réseau Action Climat, il s'agit d'un minimum, hein, ce financement dans ce scénario, puisque c'est près du double qui serait en réalité nécessaire pour véritablement accélérer le développement du transport ferroviaire. Le réseau Action Climat s'inquiète notamment dans ce scénario 2 des montants insuffisants accordés à l'entretien des petites lignes et aux frais ferroviaires. Rien n'est dit non plus sur le modèle de financement des nouvelles lignes de train de nuit, alors qu'il s'agit d'un point crucial si on veut développer un réseau d'une dizaine de lignes à l'horizon 2030. En Autriche, pays pionnier en matière de train de nuit, le gouvernement a par exemple fait le choix clair de soutenir l'exploitation des lignes de nuit. Sur les nouveaux projets routiers, le COI recommande l'arrêt définitif du projet d'autoroute entre Poitiers et Limoges. Le COI exprime aussi de nombreuses interrogations sur plusieurs autres nouveaux projets routiers, projets d'autoroute de Rouen, du contournement de Nîmes ou d'Arles, pour lequel il invite le gouvernement à réexaminer les impacts climatiques en termes de biodiversité ou budgétaires. Alors dans ce scénario 2, qui est le moins pire, le réseau Action Climat nous dit ce qui ne va pas, c'est les projets cyclables et de transport en commun qui sont les grands perdants, puisqu'il est proposé une enveloppe de 110 millions d'euros par an sur le vélo, soit près de deux fois moins que les crédits prévus par le gouvernement pour l'année 2023, et donc cinq fois moins que les besoins estimés. Idem pour les transports en commun, avec une enveloppe de 100 millions d'euros, donc près de 5 fois moins que les besoins identifiés. Tout comme pour le vélo, la reprise de cette proposition reviendrait à acter un ralentissement des investissements dans les infrastructures cyclables et de transport en commun, alors même qu'une politique de développement équilibrée de ces offres de mobilité sur tout le territoire nécessite au contraire un renforcement des investissements. À titre d'exemple, les 4 appels à projets transport en commun en site propre lancés depuis le Grenelle de l'environnement ont permis de mobiliser près de 3 milliards d'euros sur la période 2008-2025, soit 160 millions d'euros par an, une enveloppe vraiment supérieure à celle proposée par le COI. Concernant les infrastructures portuaires, le COI souligne que la planification écologique suppose la maîtrise de la demande et le report modal vers les modes terrestres et le ferroviaire chaque fois que c'est possible, mais ne se prononce pas en revanche sur les 10 projets d'extension d'aéroports toujours en discussion en France et qui aboutiraient à une augmentation du trafic aérien pourtant incompatible avec le principe énoncé ci-dessus. Donc le réseau Action Climat appelle à la création d'un scénario 2 bis avec priorité au transport du quotidien et donc à construire ce scénario qui partirait du scénario 2 mais irait beaucoup plus loin sur l'effort d'entretien du réseau ferroviaire en augmentant les enveloppes allouées aux infrastructures aussi également cyclables et de transport en commun pour leur donner toute leur place. Et c'est une proposition donc du réseau Action Climat qui attend que ce projet se décline dans le cadre d'un nouveau scénario. Voilà pour vous montrer un peu quel est l'état de la réflexion sur le développement du transport. On voit qu'on n'a pas du tout de changement de cap et pas du tout d'inclinaison, on va dire, qui nous permettrait de mettre en œuvre cette sobriété, cette vraie sobriété, cette vraie décroissance, c'est-à-dire répondre une réponse aux besoins qui soit compatible avec la durabilité de nos ressources. Et puis je voulais terminer cette page avec un petit article de Fabrice Nicolino dans son blog Planète sans visa sur l'hydrogène, et qui revient sur cette belle et grande nouvelle puisque Chemours va investir 200 millions de dollars pour une nouvelle usine dans l'Oise. Et sans entrer dans la technique, Fabrice Nicolino nous dit que ça servira à fabriquer de l'hydrogène. Une courte précision, Chemours, c'est anciennement Dupont, une entreprise de la chimie exemplaire. On lui doit, la liste réelle et sans fin, la moitié de la poudre utilisée pendant la guerre de sécession américaine, à peine moins pendant la Première Guerre mondiale, côté américain, la mise au point de nombreux plastiques, dont le nylon et le téflon, de pesticides, le plomb ajouté aux bagnoles avec Exxon et General Motors, des millions de morts, la première bombe atomique, avec quelques autres acteurs. Or, donc, d'excellentes personnes, nous dit Fabrice Nicolino, attentifs au sort commun. Qu'en est-il à propos de l'hydrogène ? L'une des chefs de Chemours, Denise Dignam, nous dit tout. Nous avons choisi d'investir 200 millions de dollars en France car nous avons senti un véritable alignement entre ce que nous voulons faire et ce que le gouvernement français veut faire. Elle veut parler du vaste plan d'hydrogène lancé par Macron et ses petits amis qui ont décidé d'injecter 2,1 milliards d'euros dans cette nouvelle filière. Le maire, qui aime tant les mots qui ne veulent rien dire, promet que la France sera le leader européen de l'hydrogène décarboné en 2030. Il est dur d'écrire d'aussi grands personnages que ce sont des charlatans. Mais enfin, c'est vrai, nous dit Fabrice Nicolino. On ne détaillera pas ici pourquoi l'hydrogène est la plus belle opération de désinformation depuis des lustres, car il y faudrait un livre. Concentrons nos binocles sur un point. Comment produit-on de l'hydrogène ? C'est bête comme chou, mais il faut de l'énergie. Dans le monde, 96% de la production d'hydrogène est obtenue à partir des fossiles habituels, gaz surtout, mais aussi pétrole ou charbon. C'est de très loin le moins cher. Autrement exprimé, et pour des décennies pourtant décisives pour le climat, produire de l'hydrogène aggravera le dérèglement en cours. Tout repose sur une arnaque sémantique qui rappelle de nombreux artifices passés de l'industrie mondiale, comme par exemple le développement durable, l'éco-responsabilité, la compensation carbone, l'économie circulaire, la transition écologique, les taxes et crédits carbone, etc. etc. Autant d'expressions visant à continuer comme avant. Le développement durable, c'est le développement qui va durer, en habillant l'opération de jolies plumes multicolores dans le cul. Il ne s'est jamais agi de tailler dans la consommation d'énergie et la prolifération des objets matériels, mais en l'occurrence de décarboner, c'est-à-dire d'utiliser un hydrogène qui n'émet pas de carbone, en effet, en laissant tout de l'honneur aux énergies fossiles qui l'auront fabriqué. En France, et les écolos officiels et de pacotille s'en foutent bien, l'hydrogène sera massivement produit à partir de l'électricité nucléaire. La garantie que les EPR seront bel et bien construits malgré le désastre de leurs chantiers en France et en Finlande. L'hydrogène, c'est le nucléaire pour aujourd'hui, demain et après-demain. Une dernière avant de se quitter, nous dit Fabrice Nicolino, la farce macabre du gaz naturel liquéfié, GNL. C'est leur nouvelle coqueluche. Total vient de mettre en service son terminal d'importation de GNL en Allemagne sur la Baltique. Pour contourner les risques géopolitiques des gazoducs, on fait venir du GNL par bateau depuis le Qatar ou les États-Unis. Ce GNL, dont on rappelle qu'il sert à fabriquer de l'hydrogène, émet 2,5 fois plus de CO2 que celui des gazoducs et les États-Unis ont multiplié par 3 son exportation vers l'Europe. Or, le GNL américain vient essentiellement du gaz de schiste qu'on imaginait banni de France. Et c'est ainsi que, par l'opération du Saint-Esprit, l'hydrogène apparaît comme le sauveur de leur monde en perdition. Abracadabra, conclut Fabrice Nicolino dans son article bien tiré de son blog Planète sans visa. On va s'accorder une pause musicale bien méritée. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz.
Existe des murs d'importance, abritant des palais imposants, où s'engouffrent des vents immobiles, où ne pénètre jamais le froid. Il existe des gens sans conscience, qui signent des décrets malfaisants, et radote des lois imbéciles qui balaient la raison et le droit. Il existe des lieux d'insolence à l'abri des gueux et des perdants où s'ébattent des princes futiles brûlant des fortunes dans la joie. Il existe dans la douce France de la mort au milieu des vivants, du désert au mi-temps de la ville, des hivers qui durent 12 mois. J'ai vu des regards sans existence, des fantômes qui trompent le temps, des humains aux gestes malhabiles qui mendient devant les cinémas. Tout un peuple garde le silence, mais le vacarme est assourdissant. La détresse sans cesse défile et se blottit sous le moindre toit. Il existe des murs d'importance, abritant des palais imposants, où s'engouffrent des vents immobiles, où ne pénètre jamais le froid. Il existe dans la douce France de la mort au milieu des vivants, du désert au mi-temps de la ville, des hivers qui durent 12 mois. Mm-hmm.
Voilà, c'était Serge Gerroyo, des hivers qui durent 12 mois sur Radio Libertaire 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeux de Terre qui reprend le cours de son actualité. On évoquait le nucléaire, eh bien on va développer rapidement deux articles, moi, qui me semblent refléter en tout cas l'actualité avec eh bien, encore une fois. Dans le mensuel du mois de mars de la décroissance, la chronique anti-nucléaire de Stéphane Lhomme qui déplore une opinion publique mal axée et déboussolée. L'opinion, ça se travaille, alors que la propagande en faveur de l'atome bat son plein, les Français seraient très majoritairement favorables à la poursuite de la nucléarisation du pays. La pédagogie des catastrophes n'a-t-elle pas eu lieu ? Point d'interrogation. En 1975, alors que les chantiers de réacteurs nucléaires commencent à pulluler en France, Bernard Lavilliers publie dans son album Le Stéphanois la chanson La Vérité. Les paroles restent totalement d'actualité et illustrent même parfaitement la façon dont est travaillée encore aujourd'hui l'opinion publique, tout particulièrement sur le nucléaire. Alors voilà, les paroles de la chanson. On la malaxe ou on la broie, on la manie, on la surcharge. On l'interprète, on la décharge, on l'a vécu, on l'a connu. On a la sienne, on a la nôtre, ils ont la leur, mais elle est fausse. Elle est toute faite, toute fabriquée, elle est divine, mystifiée. Elle sort du puits ou du trottoir, elle est unique, elle est à voir. Oui, telle est la vérité, l'opinion publique se pétrit comme de la pâte à modeler, nous dit Stéphane Lhomme. C'est ainsi que depuis un an que se déroule la guerre en Ukraine, et malgré le danger extrême de catastrophe nucléaire causée par les combats autour des centrales de Tchernobyl et Zaporijjia, le pouvoir politique, médiatique et industriel a réussi à persuader l'opinion publique française de la nécessité d'avoir des réacteurs nucléaires, et même d'en fabriquer de nouveaux. Il est vrai que le saltimbanque Jean-Marc Jancovici a libre antenne sur quasiment toutes les télés et radios et pages ouvertes dans les journaux pour faire une promotion éhontée de l'atome sous prétexte de sauver la planète. Ce qui est un comble, sachant qu'au contraire le nucléaire peut la détruire ou au moins tuer ou contaminer les êtres vivants. Mais Janko est loin d'être le seul à pouvoir faire œuvre de propagande radioactive. On a pu relever, par exemple, en février, sur France Télévisions, une longue interview d'Anne Le Vergeon, qui a pu prendre tout son temps, sans la moindre contradiction, pour mentir en faveur de l'atome. Stéphane Lhomme nous rappelle que, pour mémoire, que loin de pouvoir raconter ses sornettes sur le service public, cette dame devrait être en prison. On ne lui en voudra pas vraiment d'avoir mené à la faillite l'entreprise Areva, dite le géant du nucléaire, mais le fait est que des milliards ont mystérieusement disparu et que ce sont les citoyens de France qui payent la lourde note. La justice est saisie depuis des années, nul doute qu'un procès aura lieu dans quelques siècles, suppose Stéphane Lhomme. Toujours est-il que d'après de récents sondages, l'opinion française serait aux deux tiers favorable au maintien du nucléaire. Bien sûr, les questions posées ne ressemblent pas du tout à celles-ci, par exemple. Donc, exemple de question que propose Stéphane Lhomme. Sachant que les centrales nucléaires constituent de parfaites cibles pour d'éventuels ennemis et que rien ne permet de dire que la France sera toujours épargnée par les guerres, êtes-vous favorable à l'atome ? Ou alors, il propose une autre question, sachant que les réacteurs nucléaires actuels sont délabrés et souvent arrêtés, qu'EDF se révèle incapable de construire les réacteurs EPR et que la France est obligée d'importer massivement de l'électricité depuis des mois, êtes-vous pour la continuation du nucléaire ? Les questions posées dans le sondage, les sondages dont fait référence Stéphane Lhomme, ne sont pas pour autant ouvertement pro-nucléaire, car le sale travail a été fait en amont. Depuis des décennies, et ce dès l'école primaire, le collège et le lycée, où les propagandistes d'EDF ont porte ouverte, les citoyens de France se sont vus assurer que le nucléaire est propre, or c'est faux, que le nucléaire est sûr, or c'est faux, que le nucléaire est pas cher, c'est également faux, que le nucléaire crée beaucoup d'emplois, ce qui est faux, et assure à la France son indépendance énergétique, ce qui est faux, etc. Les sondeurs n'ont plus qu'à ramasser la mise en temps ordinaire, car cette belle machine de propagande s'enraye de temps en temps, à l'occasion des catastrophes nucléaires. Ainsi, juste après les désastres de Tchernobyl, commencés le 26 avril 1986, et de Fukushima, commencés le 11 mars 2011, les sondages n'ont pu que constater un rejet massif du nucléaire, de l'ordre de 75%. Ce phénomène ne se produit bien sûr pas qu'en France. On se souvient que pour mener à bien son projet de construction de réacteurs, l'inénarrable président du Conseil italien Berlusconi avait convoqué juste avant le début de la catastrophe de Fukushima un référendum sur le nucléaire qui a donc eu lieu en plein désastre. Résultat, 95% contre l'atome. En France, le Berlusconi local, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, avait annoncé la construction d'un réacteur EPR à Penly, en Seine-Maritime. Des débats publics avaient été organisés avant que tout ce petit monde ne rentre chez lui à l'annonce du désastre japonais. En Italie ou dans d'autres pays comme l'Autriche ou l'Allemagne, la situation est verrouillée au détriment de l'atome, mais ce n'est pas le cas en France où les promoteurs du nucléaire jouent d'une arme au long cours, l'amnésie de la population. En effet, au fil des années, on constate que l'effet catastrophe s'estompe et que le bourrage des crânes en faveur du nucléaire finit par reprendre le dessus. Jusqu'au prochain désastre, bien entendu. Marchant exactement dans les pas du mari de Carla Bruni, Emmanuel Macron a annoncé à son tour la construction d'un réacteur EPR et toujours à Penly. Il faut croire que, selon l'expression bien connue, l'histoire est un éternel recommencement. Moralité, tous aux abris, anti-atomiques. Conclusion donc de Stéphane Lhomme dans sa chronique pour effectivement nous alerter sur le retour en grâce, en tout cas médiatique hein, bien sûr, du nucléaire. Et alors je voulais également m'appuyer sur un article du Canard Enchaîné de la semaine, donc du 1er mars, sur le dérapage gouvernemental dans sa course au nucléaire, un article signé Hervé Liffrand, qui nous dit qu'avant de lancer le chantier de ces nouveaux EPR, l'Élysée veut réduire le rôle des experts de l'IRSN cloués au pilori par le lobby pro-atome. Donc le Canard nous rappelle que 15 jours après avoir annoncé la dissolution de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, donc l'IRSN, et sa dispersion façon puzzle entre plusieurs institutions, le gouvernement s'est retrouvé le 23 février contraint d'amender son projet. La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, voulait au départ éclater l'IRSN entre le ministère de la Défense, le commissariat à l'énergie atomique et l'autorité de sûreté du nucléaire, donc CEA et ASN, au risque de se prendre une mégadose de radiation syndicale. Le but inavoué de cette fusion était de réduire le rôle des experts de l'IRSN qui sont accusés par leur lobby nucléaire de freiner le business de l'atome avec des études jugées trop alarmistes. Pas question de voir ce scénario se répéter avec les 6 nouveaux EPR annoncés par Macron. Pas de bol, les personnels de l'IRSN n'ont eu aucun mal à démontrer que le démantèlement de leur institut allait conduire à des pertes de compétences majeures et risquait de ruiner le crédit accordé à la sûreté nucléaire française. Dans ces conditions, le gouvernement pouvait se retrouver sans majorité pour faire voter sa réforme au Parlement. Agnès Pannier-Runacher assure désormais que les 1725 salariés de l'IRSN seront transférés autant que possible, citation, à l'ASN, donc qui est l'autorité de sûreté nucléaire. Cette formulation alambiquée évite à la ministre de se prononcer sur une question épineuse, celle du rattachement au ministère des Armées du secteur défense de l'IRSN. Les militaires sont demandeurs, mais la mise en œuvre de cette mesure s'avère pour le moins casse-gueule. Par exemple, comment séparer les équipes de l'IRSN qui travaillent sur les menaces d'incendie dans les installations civiles aussi bien que militaires ? Mettre 50 spécialistes d'un côté et 50 de l'autre ne risque-t-il pas de se traduire par des expertises au rabais ? Un autre coup de Jarnac se prépare. Il s'agit de supprimer une tradition aujourd'hui bien ancrée dans le nucléaire français. Tous les avis rédigés par l'IRSN et par les autres groupes permanents d'experts qui travaillent sur les risques nucléaires civils pour l'ASN sont rendus publics dans le mois qui suit leur rédaction. Cette habitude énerve au plus haut point EDF et certains pronucléaires comme ceux de Patrimoine Nucléaire et Climat, une association patronnée par des notables LR, socialistes, souverainistes ou communistes. Ces élus ou ex-ministres estiment que la publication anticipée des avis pousse donc l'autorité de sûreté du nucléaire, l'ASN, à durcir ses décisions et à ordonner l'arrêt de réacteurs nucléaires qui pourraient, imagine-t-il, continuer de tourner malgré des incidents de fonctionnement. Il juge ainsi abusive la fermeture temporaire de nombreuses installations ordonnées après la découverte en 2022 d'une grave épidémie de corrosion. Ces trouillards de l'ASN auraient cédé trop vite à l'IRSN. Il s'agirait désormais de ne publier les avis que plusieurs mois, voire plus d'un an après leur rédaction et surtout une fois que les décisions finales auront été prises par l'autorité de sûreté. En somme, retirer l'essentiel de leur pouvoir de nuisance en leur imposant une période de secret. Interrogé par Le Canard, le ministère botte en touche et affirme qu'il n'y a pas encore de décision prise sur la date de publication des avis. Aussi courageuse que téméraire, l'ASN assure de son côté qu'elle n'a pas de position sur la question. En réalité, la décision a déjà été prise et fait partie d'un deal passé entre l'autorité de sûreté et le gouvernement. L'extension du périmètre de l'ASN se fera en échange du musellement des experts de l'IRSN, au risque de déclencher quelques réactions en chaîne parmi les professionnels. Voilà, article du Canard sur réformes et la réduction du rôle des experts de l'IRSN qui sont, comme le dit le Canard, cloués au pilori par le lobby pro-atome. Et puis pour très très rapidement, peut-être, on n'en a jamais fini avec le nucléaire bien sûr, si je retrouve mon article, peut-être faire l'écho très rapidement avec France Nature Environnement, l'idée de recourir au livret A pour financer le nucléaire. France Nature Environnement nous rappelle pourquoi c'est une mauvaise idée. Historiquement, le livret A est investi dans les politiques de renouvellement urbain et la construction de logements sociaux. Le financement du programme nucléaire se ferait donc, dans ce cas-là, au détriment des politiques sociales. Cette hypothèse traduit les difficultés de l'État à soliciner le coût exorbitant du nucléaire. EDF estime le coût de 6 nouveaux EPR à 51,7 milliards d'euros, sans compter les coûts liés au retard des chantiers qui deviennent monnaie courante, comme à Flamanville, Olkiluoto en Finlande, Taishan en Chine. Trouver une telle somme pour financer de nouveaux réacteurs dont on ne sait pas s'ils fonctionneront est une aberration. Parce qu'il s'agirait d'un investissement trop peu rentable pour les investisseurs privés, l'État envisage donc d'utiliser l'épargne des Françaises et Français pour une énergie qu'ils n'ont pas choisie et au détriment du logement social. Une pierre de plus dans la confiscation du débat sur l'énergie. Donc France Nature Environnement dit que l'hypothèse du recours au livret A doit être écartée. Et c'est l'enjeu du financement des projets nucléaires qui doit être mis au centre des discussions. Face à cette catastrophe économique qui s'annonce, c'est le choix d'un mix énergétique composé à 100% d'énergie renouvelable en 2050 qui doit être fait. Plus sûr, moins cher, plus rapide à développer et facilement appropriable par les citoyens, les énergies renouvelables répondent aux enjeux climatiques et démocratiques. Et à cette conclusion, on ajoutera bien sûr le premier axe qui est celui de la sobriété, c'est-à-dire l'énergie qu'on n'a pas besoin de consommer, en sortant de cette société justement de surconsommation dans laquelle nous nous laissons enfermer par le système capitaliste qui a besoin de rentabiliser ses investissements. Allez, on se fait peut-être une dernière courte et pause musicale avant de faire une page sur l'agriculture, une page pour finir l'émission. Vous êtes sur Radio Libertaire 89,4 MHz.
Il a vanté d'un si grand vent, grand Dieu, la cruelle tourmente. La moitié de nous j'en pleurais, les autres chantaient des louanges. Les autres chantaient des louanges, et tous ils ont maudit le sort, et nous le maudirons encore. Au moment de notre mort.
Car toujours on nous pille et toujours on nous prend, et c'est toujours paysan. Nous préparons nos pierres, noire sera votre temps, et c'est toujours paysan. Car toujours on nous pille et toujours on nous prend, et c'est toujours paysan. Nous préparons nos pierres, noir sera votre temps, et c'est toujours paysan. Et c'est toujours paysan.
Le navire de Bayonne, Pays Paysan, interprété par Malicorne. Une courte pause musicale puisque la page agriculture est trop fournie pour aujourd'hui. Alors, sur cette question, un petit rappel avec Actu Environnement, le chiffre du 28 février 2023. Le chiffre, eh bien, c'est 14%, c'est la proportion de la surface agricole française détenue par des sociétés agricoles financiarisées, c'est-à-dire des sociétés à capital ouvert qui permettent à des investisseurs non agricoles de prendre le contrôle des fermes. Et tout ça, c'est une révélation du réseau Terre de Liens dans la seconde édition de son rapport sur l'état des terres agricoles en France. Le mouvement citoyen demande au gouvernement de mieux contrôler ces sociétés au risque de laisser se développer un modèle d'agriculture de firme qui empêche les installations à taille humaine respectueuses de l'environnement. Et puis, c'est justement ce rapport Terre de Liens. Fait l'objet d'une analyse par le site La Relève et la Peste du 3 mars détaille un petit peu plus. Il nous dit que ce modèle d'agriculture de firme empêche des installations à taille humaine respectueuses de l'environnement, des terres sans agriculteurs et des agriculteurs sans terres. Pour le 59e Salon international de l'agriculture, Terre de Liens a donc publié la deuxième édition de son rapport sur l'état des terres agricoles en France. Et aujourd'hui, ce chiffre de 14%, donc c'est qu'on a cité, c'est eh bien 640 000 hectares de terres fertiles détenues par les sociétés financières. Et donc Terre de Liens dénonce une logique d'accaparement et de financiarisation des terres agricoles qui met en danger la résilience alimentaire du pays. La moitié du territoire de France métropolitaine est agricole, plus de 26 millions d'hectares cultivés ou pâturés qui font vivre des agriculteurs et nourrissent des communautés en France et ailleurs. Alors que l'achat par une société chinoise de 1700 hectares de terres agricoles dans l'Indre et 900 hectares dans l'Allier avait créé la polémique en 2015, Terre de Liens, l'association, a voulu en savoir plus sur les propriétaires de terres agricoles en France. Le dernier recensement statistique public datait de 1992, époque où les agriculteurs et leurs familles possédaient 63% de la surface agricole française. Après une longue enquête, Terre de Liens dévoile donc aujourd'hui la première étude nationale sur la propriété foncière agricole et confirme les phénomènes de financiarisation des terres aujourd'hui à l'œuvre. En 30 ans, là, je m'arrête juste sur ce point. Encore une fois, on le voit sur la statistique publique aussi. Je pense par exemple à l'Observatoire des inégalités qui pallie le manque d'informations sur notamment les questions de patrimoine au niveau de la statistique de l'INSEE. Eh bien là, on a aussi le monde associatif qui réalise une étude pour observer des phénomènes très inquiétants d'ailleurs. Hein. On voit que cela vient d'une initiative finalement associative et cela ne vient pas des grandes structures étatiques. Je poursuis la lecture. En 30 ans, les sociétés d'exploitation agricole ont doublé. Parmi elles se trouvent des sociétés agricoles financiarisées, c'est-à-dire des sociétés à capital ouvert qui permettent à des investisseurs non agricoles de prendre le contrôle des fermes. Elle représente désormais, donc on a vu ce chiffre de 14% de la surface agricole utile, mais elle représente désormais une ferme sur 10 et plus de 2 millions d'hectares, dont 640 000 en faire-valoir direct, c'est-à-dire en propriété. Contrairement à l'imaginaire collectif, seuls 35% des terres cultivées, soit 9 millions d'hectares, appartiennent aux agriculteurs qui les travaillent en France. Aujourd'hui, la majorité des agriculteurs cultivent à la fois des terres dont ils ont la propriété et des terres louées. Ce sont donc 17 millions d'hectares agricoles qui sont loués à des tiers. Chaque année, j'envoie 12 chèques à mes 12 propriétaires. C'est l'ancien locataire qui a réussi à convaincre les 12 autres propriétaires de me louer leurs terres, témoigne Adrien Darfin qui cultive 40 hectares de céréales bio. Si ces sociétés passent par des réseaux traditionnels, comme le marché des terres contrôlé par la SAFER, la SAFER est le gendarme de la terre en France qui est destiné à orienter les ventes de terres vers de nouvelles installations et une agriculture nourricière. Elles ont également recours à un marché parallèle de la terre qui échappe au contrôle, celui des parts de société. Le principe est simple. Un investisseur achète des parts d'une société agricole et devient ainsi propriétaire des terres qui sont fondues dans le capital d'exploitation de la société. La SAFER estime que 200 000 hectares transitent chaque année via ce marché qui échappe à sa régulation. En 2021, la loi Sans Passe Tous aurait dû permettre de s'attaquer à ce marché parallèle, mais elle a été largement détricotée par le Sénat décrypte Terre de Liens. Les problèmes posés par cette logique de financiarisation des terres sont nombreux. Contournement des mécanismes de régulation, concentration invisible des terres. En 2019, une étude exploratoire de la SAFER en Eure et Seine-Maritime a montré que derrière 48 fermes se cachaient seulement 19 sociétés mères. Détournement des aides de la PAC, concurrence déloyale sur le marché des terres face à des agriculteurs qui souhaitent s'installer, etc. Fin 2022, dans la Vienne, 12 sociétés contrôlant plus de 2000 hectares ont été mises en vente pour une somme avoisinant les 10 millions d'euros. Trois personnes se sont associées pour acheter cette méga ferme disposant d'une surface qui aurait pu permettre l'installation agricole de 27 personnes. Il suffit de regarder ce qui se passe du côté des forêts. Bien moins régulées que les terres agricoles, les forêts font l'objet d'achats par milliers d'hectares de la part de fonds d'investissement, de banques et d'autres acteurs financiers. Sans une véritable régulation du phénomène sociétaire, c'est ce qui attend les terres agricoles. Une agriculture de firme, et non plus de ferme, qui délègue les travaux de la terre à des entreprises de travaux agricoles, une agriculture industrielle et d'ouvriers agricoles, prévient Thierry Bussy, président de la SAFER Grand Est. Derrière ces sociétés financières se cachent des groupes de l'agroalimentaire, des fonds d'investissement ou encore des investisseurs particuliers. Ce marché parallèle leur permet de prendre le contrôle d'exploitations agricoles en se passant de négociations avec des agriculteurs indépendants. Le résultat s'apparenterait presque à un retour au système féodal. Aujourd'hui, un tiers des sociétés agricoles financiarisées n'est pas contrôlé par des associés exploitants. Fini les chefs d'exploitation et place aux dirigeants en cravate qui délèguent l'intégralité des travaux agricoles. Ce modèle d'agriculture sans agriculteur est à rebours des attentes sociétales, rappelle Terre de Liens. Ce rapport intervient alors que le gouvernement étudie actuellement une nouvelle loi d'orientation agricole sur le renouvellement des générations paysannes. Terre de Liens veut inciter les pouvoirs publics à agir pour mieux contrôler ces sociétés financiarisées et endiguer le phénomène en assurant la transparence sur la propriété et l'usage des terres agricoles, incitant les propriétaires fonciers à maintenir la vocation agricole de leurs terres, facilitant les installations. Pour l'ONG, le risque est majeur. Ce modèle d'agriculture de firme empêche des installations à taille humaine respectueuses de l'environnement, des terres sans agriculteurs et des agriculteurs sans terre. Voilà la conclusion de cet écho au rapport de Terre de Liens fait par le site La Relève et La Peste. Du côté de reporter, article du 28 février, il y a un reporter relaye le manifeste pour 1 million de paysans lancé par le collectif Nourrir le 27 février, puisque 200 fermes disparaissent par semaine. Rien que ça, et c'est en réponse à ce chiffre effrayant que le collectif Nourrir, qui rassemble 52 organisations écologiques et paysannes, a lancé lundi dernier donc le manifeste 1 million de paysans à l'occasion du Salon de l'agriculture à Paris. La première urgence reste la menace d'une France sans paysans. Demain, nous en avons perdu 100 000 ces 10 dernières années et les 400 000 fermes françaises vont essuyer 50% de départ à la retraite dans les 10 ans à venir, explique ainsi le collectif, pour qui l'installation de paysans est le défi majeur auquel est confrontée l'agriculture française dans les années à venir. Pour y arriver, il propose trois axes permettant de changer de cap. Mieux soutenir les candidats à l'installation paysanne qui souvent font face à un parcours du combattant, mieux préparer la transmission des fermes. Beaucoup d'agriculteurs partent à la retraite et vendent leurs terres à l'agrandissement car c'est plus simple que de trouver un repreneur. Et enfin, dernier axe, privilégier une agriculture bonne pour le climat et la biodiversité. Autant d'orientations qui doivent permettre de stopper l'agrandissement et la spécialisation des fermes polluantes, espère le collectif, qui défend cet ensemble de propositions dans le cadre des discussions en cours avec le gouvernement sur le projet de loi d'orientation agricole. Et puis avec Oxfam France, dans un communiqué du 1er mars, toujours à l'occasion du Salon de l'agriculture, avec ce grand battage médiatique que nous avons entendu, eh bien, publie un rapport « Agriculture, les inégalités sont dans le pré » qui fait la lumière sur l'ampleur des inégalités de genre dans le monde agricole. Et alors que le secteur est à l'avant-garde des effets du changement climatique, la place des femmes dans l'agriculture apparaît plus que jamais comme primordiale. Alors, quelques conclusions. La rémunération des agricultrices est 29% inférieure à celle des agriculteurs, soit un quart de plus que dans les autres secteurs. La retraite moyenne des agricultrices est de 570 euros mensuels contre 840 pour un agriculteur. 132 000 agricultrices n'ont pas de statut lié à leur travail agricole. Les agricultrices sont plus présentes dans les pratiques agricoles durables, bio, 13% de plus que dans les filières non bio, et les circuits courts, l'élevage extensif, etc. Et puis, dans les conclusions, on pointe aussi le manque de données, car il existe très peu de données ventilées par Jean qui permettraient d'orienter les politiques agricoles vers plus d'égalité. Pour réduire les inégalités de genre dans le secteur agricole, Oxfam France appelle notamment à orienter le service de la statistique agricole Agrest vers la production de données genrées, à tendre vers la parité des organisations agricoles, des instances décisionnaires et du ministère en s'inspirant des quotas dans les conseils d'administration et les comités exécutifs des grandes entreprises, de réformer la dotation jeune agriculteur afin que son attribution et son montant favorisent l'installation des agricultrices notamment, et enfin de réaliser une analyse sensible au genre dans le cadre de la révision de la stratégie nationale d'adaptation au changement climatique. Voilà donc les propositions d'Oxfam. Peut-être un communiqué aussi de la Confédération paysanne sur l'urgence concernant la bio, d'aider directement les producteurs et productrices, puisque la situation de très nombreux paysans dans de nombreuses productions, le lait, le porc, les œufs, les fruits et légumes, ne cesse de s'aggraver. La Confédération paysanne propose depuis un an des mesures d'urgence pour les accompagner. Et mis à part des soutiens à des campagnes de promotion pour stimuler la consommation, le ministre de l'Agriculture a donné une fin de non-recevoir lors des assises de la bio. La Confédération paysanne continue pourtant à récolter sur le terrain les situations très difficiles et à les faire remonter dans les préfectures. Ainsi, dans le Grand Ouest, de nombreux éleveurs font état de fortes baisses de trésorerie pour 2022 par rapport à 2021. Des producteurs travaillent sans rémunération, voire à perte, conduisant à beaucoup de désespoir et d'inévitables cessations d'activité. Les signaux d'alarme lancés par la Confédération paysanne, répétés au gouvernement, auraient pourtant permis d'anticiper et d'éviter ces situations extrêmes. L'agriculture biologique est un modèle agricole qui a fait ses preuves et qui permet de répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux. Or, ce sont les arbitrages politiques et financiers qui déterminent la surface agricole, le nombre de paysans ainsi que la part du bio dans notre alimentation. Sans un soutien fort et direct aux producteurs et productrices et un accompagnement des filières, de l'avenir de l'agriculture biologique est compromis, nous dit la Confédération paysanne, qui appelle une nouvelle fois le ministre Marc Fesneau et le gouvernement à prendre la mesure de la situation et à prendre des décisions courageuses dès maintenant pour sauvegarder le maillon production. Donc elle réitère sa demande d'aide d'urgence de 15 000 euros pour tous les agriculteurs et agricultrices en bio, ce qui serait plus que cohérent compte tenu des investissements réalisés par la France pour développer et structurer l'agriculture biologique depuis les fermes jusqu'à la distribution, en passant par la restauration collective. C'était bien là l'objectif de départ du programme Ambition Bio, qui doit être renouvelé prochainement. Donc on voit qu'on fait beaucoup de publicité, mais que rien ne suit derrière. Et puis, un dernier communiqué, oui, je pense que j'ai le temps, sur les fruits et légumes, qui nous dit, toujours la Confédération paysanne, que le plan souveraineté laisse les producteurs seuls face aux importations, puisque ce plan de souveraineté alimentaire pour la filière fruits et légumes, qui a été présenté donc le 1er mars au Salon de l'Agriculture, manque complètement sa cible. Pourtant, le constat partagé est alarmant. 40% des légumes frais consommés en France sont importés, et on atteint même 60% pour les fruits. À ce constat, le ministère répond « compétitivité ». Nous voulons d'abord parler de revenus des producteurs et productrices, nous dit la Confédération paysanne. Il faut sortir de cette course à la compétitivité et s'engager sur la protection contre le libre-échange pour que la filière soit rémunératrice. C'est pourquoi au cours de la concertation menée au sein de l'interprofession, Interfel, la Confédération paysanne a porté sa proposition de prix minimum d'entrée, qui serait appliqué sur les fruits et légumes importés pour garantir à tous les producteurs une protection contre le dumping social intra-européen. Aucun mot n'a été dit sur l'installation, qui est pourtant au cœur de la future loi d'orientation agricole, à destination des maraîchers, des arboriculteurs, alors que la souveraineté alimentaire ne pourra se construire sans des paysannes et des paysans nombreux. Les 200 millions d'euros annoncés pour un plan pluriannuel sans objectif chiffré pour l'autonomie de la filière est un comble. Ce plan repose sur de vieilles recettes, des serres chauffées, des rénovations de vergers qui ont fait la preuve de leur inefficacité pour endiguer cette progression des importations. Et financer de nouvelles béquilles chimiques ne redonnera pas un revenu aux paysans. Or, sans revenu, toujours moins d'installations et de renouvellement et donc pas de souveraineté alimentaire. Enfin, s'agissant de l'alimentation, le ministère refuse de sortir de l'ornière de l'aide alimentaire débouchée pour les surplus de l'agro-industrie. La Confédération paysanne, avec d'autres, a proposé dans cette concertation de mettre en place la sécurité sociale de l'alimentation, un contrat gagnant-gagnant pour le revenu et l'autonomie des producteurs et productrices et pour un accès à une alimentation locale de qualité et choisie pour tous les citoyens. Voilà, on arrive à la fin de l'émission Les Mangeux de Terre, qui, eh bien, la prochaine aura lieu le premier lundi du mois d'avril. Je n'ai pas fait le calcul, mais c'est à 18h. Vous pouvez soutenir, bien sûr, la radio qui en a besoin, qui vit du soutien de ses auditeurs, en passant notamment par la souscription qui est décrite sur le site internet de l'émission. Donc on se retrouve pour notre part d'ici un mois et bien restez à l'écoute de Radio Libertaire, la plus rebelle des radios.
Fenster präsentiert Spatzenwolken, Himmel flattern, Wind bläst, meine Nase friert und paar Auspuffrohre knattern. Ach, da geht die Sonne unter, rot mit Gold, so muss das sein. Seh ich auf die Straße runter, fällt mir mein Bekannter ein. Prompt wird mir's jetzt schwer ums Herz. Ich brauch nur Vögel flattern sehen und fliegt mein Blick dann himmelwärts. Tut auch die Seele weh, wie schön Natur am Abend. Stille Stadt, verknackste Seele, Tränen rennen, das alles macht einen mächtig matt und ich tu einfach weiter fennen. Oh.